journal est présenté par Antoine de Necher.
La patronne du FMI échappera-t-elle à un procès embarrassant en marge de l'affaire Tapie Crédit Lyonnais? Le pourvoi en cassation de Christine Lagarde était examiné aujourd'hui et l'avocat général est favorable à ce qu'elle soit renvoyée devant la justice pour négligence. En Autriche, la Cour constitutionnelle invalide l'élection présidentielle qui avait vu la victoire in extremis de l'écologiste Alexander Van der Bellen sur le candidat d'extrême droite Norbert Hofer. Quel sera l'effet de cette décision inédite sur les électeurs qui devront revoter? On pose la question tout à l'heure au député centriste autrichien Christoph Wawrick. Toujours aucune revendication après le triple attentat de mardi à l'aéroport d'Istanbul. Le groupe État islamique est fortement soupçonné. Yves Izard nous expliquera pourquoi il ne revendique pas forcément ces attaques sur le sol turc. Et puis moins de 2 heures de TGV pour faire Paris-Strasbourg. Le dernier tronçon de cette ligne à grande vitesse est inauguré dimanche. Quel bénéfice l'Alsace peut-elle en attendre? Quel impact de cette politique du tout TGV globalement? Notre invité sera un spécialiste du ferroviaire, Florent Laroche, maître de conférence à l'université Lyon 2. Et si Christine Lagarde n'échappait pas à la Cour de justice de la République, l'ancienne ministre de l'économie, accusée de négligence dans l'affaire de l'arbitrage favorable à Bernard Tapie, a déposé un recours contre son renvoi en justice. Ce recours était examiné aujourd'hui par la Cour de cassation et le ministère public a donc requis le rejet du pourvoi de l'actuelle patronne du FMI, Catherine Dutu.
Reste à savoir si dans sa décision du 22 juillet prochain, la Cour de cassation va suivre l'avis du ministère public. Dans ce cas, Christine Lagarde devra bel et bien comparaître devant la CJR, la Cour de justice de la République, seule instance habilitée à juger les délits commis par des membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. En décembre dernier, les magistrats de cette CJR avaient renvoyé l'ancienne ministre de l'économie en procès pour le délit de négligence dont a résulté un détournement de fonds public. Il s'agit des 404 millions d'euros accordés en 2008 à Bernard Tapie par un arbitrage afin de régler son vieux contentieux avec l'ancienne banque publique Crédit Lyonnais pour la vente d'Adidas. Les juges d'instruction suspectent un simulacre d'arbitrage organisé pour favoriser l'homme d'affaires. 6 personnes mises en examen pour escroquerie en bande organisée et détournement de fonds ou complicité, dont Bernard Tapie. Arbitrage annulé pour fraude par la Cour d'appel de Paris. Une décision validé hier par la Cour de cassation. Et si les avocats de Christine Lagarde estiment que le délit de négligence ne peut pas être caractérisé tant que des condamnations n'ont pas été prononcées sur le détournement de fonds lui-même, de son côté, l'avocat général affirme que cette négligence est une infraction distincte et autonome. C'est pour cela qu'il conclut au rejet du pourvoi de Christine Lagarde. La patronne du FMI, qui entame la semaine prochaine son second mandat à la tête de l'institution de Washington, risquerait devant la Cour de justice de la République, 1 an de prison et 15 000 euros d'amende.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Manuel Valls a été hué ce soir à Montpellier par plusieurs dizaines d'opposants au projet de loi travail. Le Premier ministre venait inaugurer une ligne de tramway. La démocratie, c'est le respect et l'écoute de chacun, a-t-il lancé, mais son discours a été couvert de bout en bout par des sifflets fournis. Les manifestants, en fait, sont parvenus à entrer sur le site malgré un dispositif de sécurité très important et des fouilles systématiques aux entrées ce soir à Montpellier. À l'étranger maintenant, en Turquie, 3 jours après le triple attentat suicide à l'aéroport d'Istanbul, la police a arrêté aujourd'hui 11 nouveaux suspects, des étrangers soupçonnés d'appartenir à une cellule du groupe État islamique, ce qui porte à 24 le nombre total d'interpellations. La presse turque rapporte que la police en fait suspecte un Tchétchène inscrit par les Nations Unies sur une liste de dirigeants de l'État islamique d'être le cerveau de cette attaque. Pour autant, ces attentats n'ont pas été revendiqués par Daesh, qui d'ailleurs n'a jamais revendiqué d'attentat d'envergure en Turquie. Alors pourquoi? Élément de réponse avec vous, Yves Izard.
La première raison avancée, c'est la dépendance de l'État islamique envers le territoire turc. Revendiquer des attentats reviendrait à déclarer la guerre à la Turquie. Mais jusqu'à quand cette position sera tenable? Car depuis le début de l'année, la Turquie s'est plus directement impliquée dans la coalition. Avec sa base aérienne à Adana, elle est désormais utilisée pour des opérations contre Daesh. Le double jeu, dénoncé par des journalistes de Cumhuriyet, condamné d'ailleurs pour divulgation de secrets d'État, peut-il continuer? Ils avaient accusé les services secrets turcs de livrer des armes aux groupes djihadistes en Syrie. Et il est vrai qu'au début du conflit, les Turcs voulaient avant tout abattre le régime de Bachar el-Assad et que le danger représenté par l'État islamique était minimisé. que les services de renseignement avaient une certaine tolérance vis-à-vis des cellules terroristes sur le sol turc. Mais les attentats se sont multipliés depuis un an contre les civils et la police. Et accuser les séparatistes kurdes ne suffit plus, même s'ils restent l'ennemi numéro un du régime d'Erdogan.
En revanche, au Bangladesh, ce soir, l'État islamique revendique une attaque dans un restaurant de la capitale, Dhaka. Des hommes armés sont entrés. Daesh affirme d'ailleurs avoir tué 20 personnes ce soir. Un coup de tonnerre en Autriche ce midi. Les électeurs autrichiens ont appris qu'ils allaient devoir revoter, probablement en septembre ou en octobre, pour élire leur président, car le second tour de la présidentielle, le 22 mai dernier, a été invalidé à la surprise générale par la Cour constitutionnelle. Il y avait eu seulement 31 000 voix d'écart pour l'écologiste Alexander Van der Bellen. Et la Cour estime qu'il y a eu en fait des irrégularités, notamment lors du dépouillement des votes par correspondance. C'est une victoire pour le FPE, le Parti de la Liberté de Norberhofer, qui avait déposé ce recours. Alors est-ce que du coup cela va doper la campagne du candidat d'extrême droite? Écoutez ce qu'en pense Christophe Wawrig, il est député autrichien centriste.
Il y a quand même le risque d'une certaine polarisation, d'une certaine exaspération, autant aussi bien au niveau de l'électorat qu'au niveau de la classe politique. C'est un risque. J'espère que ça n'aura pas lieu. J'espère que l'été aidera, parce que les gens sont en vacances, il fait beau, on est sur les lacs, on est dans les montagnes. Donc j'espère que ce deuxième tour ne va pas causer cette exaspération, polarisation, aigreur et rancune qui évidemment risque d'avoir lieu.
Des rancunes contre les immigrés, des rancunes contre la bureaucratie de l'Union européenne, des rancunes renforcées par le Brexit.
Ça marche dans les deux sens. Bien sûr que lui, il va essayer d'exploiter le Brexit en montrant du doigt à la Grande-Bretagne, en disant voilà, ils ont le courage, c'est la chose à faire, c'est la chose à suivre, n'ayons pas peur, suivons l'exemple. Bon, il y a ce risque. Mais aussi, on commence déjà maintenant à se rendre compte que les conséquences pour la Grande-Bretagne sont quand même fortes. L'autre camp peut parfaitement montrer du doigt les résultats négatifs, la chute de la livre sterling, l'émigration des entreprises britanniques vers le continent, etc. Et de dire voilà, voilà ce qui nous attend, ils ont joué avec le feu. Donc je pense que ça peut aller dans les deux sens.
Le député centriste autrichien Christophe Wawrig, interrogé par Ludovic Piétenu. Il est l'un des favoris pour succéder à David Cameron au 10 Downing Street. Le ministre de la Justice pro-Brexit, Michael Gove, a tenu une première conférence de presse aujourd'hui à Londres. Première depuis qu'il a annoncé qu'il était candidat pour diriger le Parti conservateur et devenir ensuite Premier ministre. Cette déclaration de candidature a entraîné, on le sait, le retrait de celui à qui le poste semblait être destiné, Boris Johnson. Et du coup, cela fait de Michael Gove un traître aux yeux de certains, Franck Madvon.
Pour beaucoup de députés conservateurs, Michael Gove est un traître. Il devrait se retirer de la course. Les supporters de Boris Johnson en particulier ont la dent dure. Gove, qui soutenait l'ancien maire de Londres, lui a tourné le dos à la surprise générale en se portant lui-même candidat. Il s'en explique.
Je pensais que Boris Johnson pouvait construire et mener une équipe. Je voulais tant que ce plan fonctionne. J'ai travaillé nuit et jour pour ça. J'ai réalisé cette semaine que malgré ses formidables talents, il n'était pas la bonne personne pour cette fonction.
Les deux hommes ne se seraient pas entendus sur la manière d'organiser la campagne. Mais les proches de Boris Johnson soupçonnent Michael Gove d'avoir tout planifié, avec peut-être le soutien de David Cameron et de son bras droit George Osborne, qui ne voulait surtout pas du maire de Londres à Downing Street. Gove avait toujours dit qu'il n'était pas intéressé par le job, d'où quelques contorsions dans son discours.
J'ai fait presque tout ce qui était possible pour ne pas être candidat à la direction de ce parti. Quel que soit le charisme nécessaire, je ne l'ai pas. Et s'il faut du glamour, on ne risque pas de penser à moi pour ça.
Michael Gove se présente en candidat du changement, l'homme du Brexit, prêt par exemple à en finir avec la liberté de mouvement. Mais il est peut-être trop tard, la brouille avec Boris a donné beaucoup d'avance à la ministre de l'Intérieur, Theresa May.
Franck Madvon à Londres pour France Culture. Sans surprise, l'Union européenne a prolongé jusqu'au 31 janvier 2017 les sanctions économiques décrétées contre la Russie depuis l'été 2014 à cause du conflit en Ukraine. Ces sanctions touchent principalement des banques ainsi que des entreprises pétrolières et de défense russes. Ce soir, le ministre russe des Affaires étrangères dénonce une décision absurde et à courte vue de la part de l'Union européenne. En France, rallier Paris à Strasbourg en 1h45, ce sera possible à partir de dimanche. Le dernier tronçon de LGV, la ligne à grande vitesse, va en effet être inauguré, permettant de gagner plus de 30 minutes par rapport au temps de trajet actuel entre la capitale française et la capitale alsacienne. Bonsoir Florent Laroche.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2 au laboratoire Aménagement Économie Transport. En quoi cette ouverture du dernier tronçon de la LGV Est constitue un événement ?
Bah écoutez, je serais plutôt tenté de dire que c'est une sorte de non-événement, puisque l'événement a déjà eu lieu lors de l'inauguration du premier tronçon de la LGV Est en 2007, je crois, puisque l'on passait de 4 heures de trajet entre Paris et Strasbourg à 2h20. Donc autrement dit, on gagnait en accessibilité pour la région alsacienne, puisqu'il était désormais possible de faire aisément l'aller-retour dans la journée. Et d'autre part, on passait sous cette barre fatidique des 3 heures de transport, en sachant que en dessous de 3 heures, habituellement, on estime que l'offre se reporte plutôt vers le TGV au détriment de l'aérien. Donc là, on était bien, on remplissait bien les objectifs de réduction d'émissions de CO2 et d'amélioration de l'offre ferroviaire au niveau français.
Et là, sur la liaison Paris-Strasbourg, ça a été le cas depuis qu'on est à moins de 3 heures. Il y a eu un report.
La fréquentation a augmenté lors de l'inauguration de la ligne et ensuite. Néanmoins, depuis 2008-2009, avec la crise économique, les trafics ont tendance à stagner, la fréquentation a tendance à stagner. Et peut-être que là, on est dans le pari qui a été fait par la SNCF d'ouvrir la dernière partie du tronçon pour espérer gagner un peu plus de fréquentation. Alors, est-ce que ça va marcher? Je n'en suis pas sûr. Hein, quand on voit la dernière inauguration d'une ligne nouvelle qui était la ligne Rhin-Rhône entre Dijon et Belfort, le gain de trafic a été quasi nul.
On va quand même gagner une demi-heure de trajet entre Paris et Strasbourg. Vous ne pensez pas que ça va forcément avoir un impact et attirer encore plus de voyageurs ?
Alors, il peut y avoir un impact dans la mesure où Air France a annoncé en avril la fin de ses vols court-courrier directs entre Paris et Strasbourg. Bon, mais je pense que ça risque d'être quand même assez minoritaire parce que là où en 2007, la SNCF était dominante hein, sur le marché interurbain de voyageurs avec une offre ferroviaire unique, aujourd'hui on a des nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché. Je pense ici aux autocars, mais aussi au covoiturage, et qui risquent d'écrémer un peu la partie des usagers qui ne pourront pas assumer le surplus tarifaire bien qui découlera d'une augmentation des tarifs, même si la SNCF annonce qu'elle sera maîtrisée. Alors, évidemment, soit sont les usagers seuls qui assument le coût supplémentaire pour ces 30 minutes, hein, 66 millions par minute gagnée, non négligeable, soit c'est le contribuable.
C'est quand même un investissement de plus de 2 milliards d'euros hein, pour ce dernier tronçon de 200 km de la LGV Paris-Strasbourg. Ces 2 milliards d'euros, très franchement, ils sont mis dans le TGV. On imagine qu'ils sont pris ailleurs. Autrement dit, c'est encore le tout TGV qui prédomine en France. Est-ce que c'est un bon calcul ?
Alors effectivement, c'était le tout TGV, puisque cette ligne, vous savez, les projets d'infrastructure sont toujours à voir sur le long terme. Hein. Donc la réalisation de cette ligne a été actée en 2009 lors du grand investissement engagé par Nicolas Sarkozy avec la création de 4 lignes LGV et une enveloppe de quelques milliards d'euros pour cela. La crise était déjà perceptible en France. Mais l'idée habituelle, et l'idée habituellement soutenue par les politiques, était de relancer l'économie du pays à travers l'investissement dans l'infrastructure ferroviaire, notamment les nouvelles infrastructures. On a vu le résultat avec une croissance à tonnes depuis et un chômage qui a explosé. Donc c'était plutôt une fausse bonne idée. Et une fausse bonne idée à double titre, puisque d'un autre côté, dès 2005, un rapport très sérieux réalisé par l'École polytechnique fédérale de Lausanne mettait en évidence la dégradation avancée du réseau ferroviaire français hors LGV, avec un besoin d'investissement de 1,1 milliard d'euros par an, simplement pour maintenir l'infrastructure en l'état.
Dans ce qu'on appelle les trains du quotidien.
Les trains du quotidien, tout à fait. Donc TER, Intercité, etc. Donc ça, c'est un rapport qui est sorti en 2005. Et en 2009, on signe à nouveau pour 4 LGV nouvelles, alors même que la crise économique a déjà touché de plein fouet la Grèce et s'annonce pour les finances françaises. Et donc, conséquence, en 2012, un nouveau rapport a été produit donc par l'École polytechnique fédérale. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce rapport ? Premièrement, en 2012, on a observé un ralentissement des investissements pour le réseau du quotidien. On a observé donc un ralentissement dès 2009. Donc, au moment même où on signait pour ces 4 nouvelles LGV, l'État se désengager en partie de ses objectifs affichés dès 2006 pour améliorer le réseau existant. Et donc, en 2012, le PFL nous disait, entre 2006 et 2011, il manque 2 milliards d'euros par rapport à ce qui était prévu en termes d'investissement. Mmh. Alors, je ne veux pas être mauvaise langue, mais ces 2 milliards d'euros font penser aussi à cette ligne LGV qui, pour 30 minutes, nous coûte 2 milliards d'euros.
Merci beaucoup Florent Laroche du laboratoire Aménagement Économie Transport de l'Université Lyon 2 d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Un mot de météo, le ciel sera souvent bien encombré demain avec même des risques d'averses sur la majeure partie du pays. Grand merci à Meta Chitaya pour son aide dans la préparation de ce journal ainsi qu'à Nathalie Lopez. Merci à Pierre Faucillon à la prise de son.